Se vedermi curano. Come che ci vedo di comune. On va essayer de comprendre un peu ce que c'était que l'un comme propriété de ce qui est. Alors vous comprenez que c'est dans le problème de la personne même que nous découvrirons parfaitement ce que c'est que le problème de l'un. Parce que là nous serons en face du pos de l'être, le comment de l'être. La personne, c'est le problème du comment de l'être. Comment l'être se trouve réalisé parfaitement, il se trouve réalisé parfaitement dans la personne humaine. Le Dasein de Heidegger, c'est intéressant parce qu'il a saisi quelque chose, comme très souvent Heidegger, il y a une intuition chez lui. Et là, il comprend que c'est le lieu par excellence de l'être. Le lieu par excellence de l'être, c'est l'homme. La maison de l'être, c'est la parole. Le temple de l'être, c'est l'homme. Et c'est vrai, ça, on peut le dire. Alors, il y a une petite note poétique, religieuse, mythique. Il suffit de la comprendre et de la respecter. Mais il y a quelque chose qui est juste. C'est que, de fait, le lieu particulier où l'être se trouve, parfaitement réalisé, c'est l'homme. Et c'est pour ça que toute la philosophie première se termine dans le problème de la personne humaine. Vous voyez, nous avons fait l'analyse, et au-delà de l'analyse, il y a le comment. Et à partir du comment, on rebondit pour découvrir, existe-t-il un être premier. Et le comment fait le lien entre les deux. C'est ce que, de fait, la scolastique traditionnelle n'a pas fait. Et que je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons faire. Parce que le problème de la personne a pris une importance énorme ces derniers temps. Alors il s'agit de comprendre que le psychologue ne peut pas dire ce qu'est la personne humaine. Et que la philosophie première doit au contraire le dire. Donc nous avons essayé de comprendre la dernière fois comment l'un était propriété de ce qui est. Et nous avons vu, si vous vous souvenez bien, les quatre modalités de l'un. Alors on pose cette question dans le prolongement du cours précédent. Est-ce que l'opération vitale qu'est l'amour n'est pas source d'unité d'être? Ou peut-on le dire quand Dieu est, ou être et vie ne font qu'un? Bien, c'est très juste cette objection, elle est intéressante. Je vous avais dit qu'à propos des modalités de l'un, si vous vous souvenez bien, SC, le bien, le vrai, opération vitale, mouvement. Et je vous avais dit qu'il n'y a que ces trois modalités, où il y a trois modalités de la propriété. C'est-à-dire de l'un. Trois modalités de l'un. Et que l'opération vitale et et que le mouvement nous donne de nouvelles modalités de l'être. Alors, on me dit ici, et c'est bien de soulever l'objection, on me dit ici, ah, l'opération vitale, c'est amour. L'amour spirituel, l'amour d'amitié. Or, l'amour d'amitié est source d'unité. Donc, il y a une quatrième, une cinquième modalité, parce que la première, c'est l'unité. Modalité au niveau de l'usien. Alors, je réponds à cela. L'amour est source, non pas d'unité d'être, est source d'unité de la volonté, idem valle. C'est donc de l'ordre de l'intentionnalité. L'amour est source d'unité dans l'ordre de l'intentionnalité, mais pas dans l'ordre de l'être. C'est le bien qui est source d'unité d'être. Mais c'est important de bien saisir, toujours. L'opération vitale n'est pas au sens immédiat, même l'opération vitale la plus spirituelle qui soit, dans le cas mot, qui est l'opération vitale la plus spirituelle, est source d'unité non pas au niveau de l'être, mais source d'unité au niveau proprement intentionnalité. Idem vel. Il y a une identité de vouloir qui permet de comprendre que, de fait, on est en face de quelque chose qui est source d'unité, non pas d'être, mais d'amour. De vie. On va très bien dire, l'amour unifie ma vie. C'est très juste. L'amour unifie ma vie et donc ma personnalité. Mais l'amour n'est pas source d'unité de mon être. Oui. J'espère que vous voyez bien ça. Hein. S'il y avait des questions, vous les poserez, parce que c'est le dernier cours. Alors, vous ne pouvez pas mettre un petit papier pour le mois d'octobre. L'Esprit Saint, amour et unité du Père et du Fils. Oui, parce que dans l'Esprit Saint Trinité, ne l'oublions pas, dans l'Esprit Saint Trinité, le point de vue de la vie et le point de vue de l'être sont identiques. En Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité. L'intentionnalité ne pénètre pas en Dieu, vous voyez. Dieu sans l'être. On devrait dire Dieu sans l'intentionnalité. Alors là, ce serait juste. Vous voyez, plus tard, écrivez un bouquin. Dieu sans l'intentionnalité, qui serait la réponse à Dieu sans l'être. Au contraire, l'être est en Dieu en premier lieu. Et c'est pour ça que si j'ai dit Dieu amour sans passer par l'être, je risque de faire une méta-intentionnalité. Et c'est ce qu'il faut. Il faut une méta-intentionnalité. Donc il ne purifie pas suffisamment le mystère de leur affirmation vis-à-vis de Dieu, puisque la purification ne peut se faire que par l'être. L'analogie est au niveau de l'être, elle n'est pas au niveau de l'amour. Et donc, s'il ne passe pas par l'être en passant tout de suite dans l'amour, ils font une méta-anthropologie. Ils projettent sur Dieu ce qu'ils sentent. Et ils ne sont pas dans la purification que donne vraiment le point de vue métaphysique. Oui. Donc, il faut bien saisir qu'en Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité, mais il y a l'être. Parce que l'être est substantiel. Et que Dieu est un être substantiel. Parce qu'il est premier. Donc il est premier dans l'ordre de l'être. Tandis que l'intentionnalité n'existe pas. Donc comprenons bien que dans la très sainte Trinité, dans le mystère de Dieu, puisque être et amour ne font qu'un, être et vie ne font qu'un, je peux très bien dire, en comprenant ce que ça veut dire du reste, que l'Esprit Saint amour fait l'unité du Père et du Fils. Mais l'unité du Père et du Fils, vous comprenez bien, elle est du fait même qu'en Dieu, être et amour ne font qu'un. Et du fait même qu'en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, je peux, au point de vue de théologie de la très sainte Trinité, ce que vous verrez l'année prochaine, ceux qui font la théologie de la très sainte Trinité, je vois qu'il y a deux sources d'unité en Dieu, en quelque sorte. L'une au niveau de l'être, l'autre au niveau notionnel, comme dit les théologiens. Et le niveau notionnel, c'est au niveau de la personne. Et donc, c'est l'Esprit Saint.
Alors, autre question.
Quel lien y a-t-il entre l'unité du côté de l'ousia et la subsistance? Très bien. Ça, c'est pour essayer de comprendre la modalité, je vous l'ai dit, il faut essayer de comprendre en fait la modalité de ces quatre, le caractère de la modalité de ces quatre modes de l'unité. Alors nous allons revenir tout de suite là-dessus. Quel est le type d'unité que recherche la politique? Très bien. Alors, regardons d'abord ce type d'unité de l'ousia. Nous avions vu que l'ousia subsiste. Et quand je dis que l'ousia subsiste, je veux dire que l'ousia est être percé. C'est le katoto d'Aristote, percée solitaire, comme on dit. C'est le katoto, c'est que la substance subsiste. Si la substance subsiste, elle subsiste en elle-même et par elle-même, c'est-à-dire qu'elle est par elle-même. Tandis qu'au contraire, l'accident, il n'existe que par la substance, que par la médiation de la substance. Tandis que la substance, elle, elle existe par elle-même. Alors, le point de vue, on me demande donc quelle différence y a-t-il? Quel lien y a-t-il entre l'unité du côté du bien et la subsistance? Vous comprenez que l'unité, de fait que l'ousia subsiste, c'est sa manière d'être. Il y a sa manière d'être. L'ousia subsiste. Elle subsiste en elle-même. Donc elle est par elle-même, sa manière d'exister. Et ceci est en opposition vis-à-vis de l'inhérence, comme on dit, des accidents. Les accidents inhèrent dans le sujet, c'est-à-dire les accidents n'existent qu'en fonction du sujet. Le problème de l'unité, c'est très vrai, va être une conséquence que l'ousia subsiste. Du fait même que l'ousia subsiste, elle est une. Vous voyez, je peux dire aussi, du fait même que l'ousia est principe, elle est une. Alors, quelle différence va-t-il y avoir entre les deux? Bien, je crois que du fait qu'elle subsiste, on est attiré vers le point de vue de MSC. C'est ce que je mettrai comme modalité différente. Je dirais que si j'insiste sur le point de vue de la subsistance, j'insiste comment laisser et relier à l'usia d'une manière essentielle. Donc la subsistance, c'est parce que l'ousia subsiste que l'essai inhère ou que l'essai s'identifie à la substance. Alors, l'unité qui suit l'essai se rattache à la subsistance. Et l'unité qui suit l'ousia comme principe se rattache à l'ousia. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je reprends. Je reprends pour que vous voyez bien les diverses modalités d'unité. Ceci est Pierre et un. Rappelez-vous ce que j'avais dit la dernière fois. Comment nous regardons l'un qui s'attribue à ce qui est et qui qualifie ce qui est, qui le qualifie d'une manière particulière pour nous montrer son indivision. Alors, cet un est différent au niveau de l'ousia, au niveau de l'essai, au niveau du bien, au niveau du vrai. Donc, quatre modalités de l'unité. Je veux maintenant essayer de comprendre le caractère propre de ces quatre modalités d'unité. Puis nous viendrons après, n'oublions pas le problème qui avait été posé en dernier lieu, le point de vue de l'unité artistique. Je ne l'oublie pas. Il faut être sûr de ne pas l'oublier. Et puis l'unité du bien commun. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a donc deux types d'unités là qu'il faut comprendre. Nous verrons du reste beaucoup mieux l'année prochaine, puisque nous ferons un séminaire sur la politique, n'est-ce pas? Politique d'Aristote, politique de Platon, politique de Machiavel, politique pour exciter vos instincts politiques et les éveiller. Alors, ce sera intéressant de faire un séminaire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cours sur la politique, c'est quand même bon d'essayer d'entrer un peu dans la politique d'Aristote. Ça, c'est pour les philosophes, hein, les théologiens, c'est autre chose. Ils sont censés connaître. Tandis que là, au point de vue philosophique, c'est intéressant d'essayer d'entrer un peu dans le problème de la politique. Alors, c'est tout le problème de l'économie divine. Si on veut comprendre ce que c'est que l'économie divine, il faut comprendre philosophiquement ce que c'est que la politique. Donc le concile nous invite à regarder l'aspect de la politique, puisqu'il nous demande de tout reprendre la théologie dans la perspective de l'économie divine. Donc, on ne peut le reprendre que par le point de vue du gouvernement. Le gouvernement de Dieu, c'est l'économie divine. Bon, alors ici, je vois quatre modalités. Je sens bien que ces quatre modalités sont très proches, mais sont quand même différentes. Alors, je vais essayer de comprendre. La modalité qui suit, la modalité de l'un, qui suit l'ousia. L'ousia principe selon la forme. Donc, c'est une unité qui se rattache d'une certaine manière à la forme. Comprenons bien, c'est pas l'unité de la forme d'art, c'est l'unité qui provient de l'arché, du principe, de la source, de toute forme. Donc c'est une unité antérieure à la forme. Une unité qui touche directement l'être, alors que la forme ne touche pas directement l'être. La forme est une modalité de l'être, mais ce n'est pas l'être. C'est très important de maintenir les deux, parce qu'autrement, on ne pourrait plus comprendre comment l'artiste peut réaliser une nouvelle forme. L'artiste ne fait pas un nouvel être, autrement il serait créateur. Mais il fait une nouvelle forme d'expression. N'importe quel artiste, quand il fait un outil, il réalise une nouvelle forme. Quand vous faites quelque chose, vous avez l'intuition de faire quelque chose, vous réalisez une nouvelle forme d'expression. C'est au niveau de la forme. Et l'unité de l'œuvre d'art est au niveau de la forme. Ça ne dépasse pas la forme. Et ça reste au niveau de la forme. C'est pour ça que ce n'est pas une nouvelle modalité. Parce que ça reste uniquement au niveau de la forme. Tandis qu'au contraire, l'unité qui provient de la substance est antérieure à la forme. C'est plus fondamental. Ça se rattache au principe. Ça se rattache à la source. Donc c'est une unité qui exprime comment l'ousia, la substance, est source de toutes les déterminations. Les principes de toutes les déterminations. Donc, l'ousia ne se multiplie pas avec les déterminations. Elle est capable de ramener toutes les déterminations, la multiplicité des déterminations, à l'unité. Donc, elle est source d'unité au-delà et plus profondément de la diversité des formes. Tandis qu'au contraire, l'unité de l'œuvre d'art est une idée à l'intérieur de la forme. C'est la victoire de la forme sur la matière qui lui permet d'être unie. Parce que quand la forme n'émerge pas assez de la matière, alors je suis dans la multiplicité, la divisibilité de la matière. Quand l'artiste ne domine pas suffisamment son œuvre, c'est la matière qui l'a donnée, puisqu'il est obligé de se servir de la matière et de coopérer avec la matière. Et alors la matière est source de multiplicité. Et parce que la matière est source de multiplicité, l'unité n'est pas assez victorieuse. La forme n'est pas assez victorieuse. Donc l'unité ne l'est pas. Donc l'unité, c'est pour montrer l'unité de l'œuvre d'art, montre comment la forme expressive, la forme utilitaire de l'œuvre d'art, de n'importe quelle œuvre d'art, est victorieuse de la diversité de la matière, de la multiplicité de la matière. Alors, on a unité à l'intérieur de la forme. Tandis que l'unité d'être qui suit l'ousia est antérieure à la forme. Puisque l'ousia est la substance et source de toutes les formes. Donc elle est antérieure, et cette unité est antérieure, et cette unité touche donc l'ousia de façon radicale pour essayer d'exprimer cette unité fondamentale qui existe en fonction de l'ousia. Bon, ça c'est l'idée, donc elle est dans l'ordre, vous voyez, elle est du côté de la substance source de la diversité des formes, mais avant la diversité des formes. Et pour montrer justement que cette source n'est pas entamée par la diversité de la forme. Tandis que l'unité qui provient de l'essai, et l'essai est lié à la subsistance. Ousia, subsistance, essai. Comme ça qu'il faut le mettre. Hein. À tel point que certains, et je comprends très bien qu'on puisse le dire, dans le cours que le livre sur l'être, j'ai mis la subsistance après la substance. Et certains m'ont dit, vous auriez dû le mettre après l'essai, au niveau de l'essai. J'ai dit non, je le mets après la substance. Et je comprends très bien qu'on puisse le mettre après l'essai, parce que c'est entre les deux. Le problème de la subsistance, c'est le problème de l'essai reçu dans nos idées. Et le problème de l'essai reçu dans l'ousia, c'est le problème justement de l'essence capable d'être actuée par le sel. Alors à ce moment-là, on peut dire que la subsistance est nécessaire pour expliquer comment cette ousia qui est sujet de sel garde cependant son unité. C'est ça que je crois que le problème de la subsistance peut se poser des deux manières. Peut se poser immédiatement après l'ousia comme principe et par rapport à l'essai. On peut le poser des deux manières. Alors, ici, nous regardons cette modalité particulière qui suit l'essai. Et donc, qui implique la subsistance. Cette unité de l'essai, l'essai est un acte d'être. C'est une unité qui ne provient plus de la source de toute détermination, mais c'est une unité d'achèvement. C'est une unité ultime, puisque c'est rattaché à la fin. Puisque c'est rattaché à l'acte. Donc c'est rattaché à la fin. C'est l'essai qui ramène toute la multiplicité et la diversité des formes à l'unité. Je crois qu'on peut dire ça. C'est imaginatif un tout petit peu, parce que c'est difficile pour nous d'exprimer ça. On pourrait dire, voyez, que l'une est antérieure à la diversité des formes, et l'autre est postérieure à la diversité des formes. Je fais le petit schéma pour que vous compreniez. La source, donc c'est l'ousia, la diversité des formes, diversité des formes et des qualités, et puis l'essai. Alors, cette diversité des formes est dépassée par l'essai, par l'acte d'être, qui donne une unité terminale, une unité finale, donc capable de ramener la diversité à l'unité. Tandis qu'au contraire, cette unité au niveau de la source, avant la diversité des formes, est une unité fondamentale. Je dirais unité fondamentale, unité ultime. Et cette unité ultime, pour bien la comprendre, il faut saisir comment l'ousia subsiste. Vous voyez ? La subsistance va permettre de ramener la diversité à l'unité. Doublement. Double diversité possible, la diversité des formes et la diversité de la capacité de l'essence à être actuée. Et c'est bien cette double unité finale. Je crois que c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Il y a deux types d'unités, l'unité numérique, et quand on dit l'unité numérique, on comprend très bien qu'elle ramène la diversité de l'unité. Et l'unité substantielle. L'unité substantielle, ça fait partie de la détermination fondamentale de l'ousia. Tandis que l'unité ultime de l'essai, ça ramène la diversité des formes à l'unité. L'unité du bien, c'est encore quelque chose d'ultime, mais c'est quelque chose d'encore plus ultime que l'essai, si j'ose dire. Pas dans l'ordre de l'être, au sens, mais dans l'ordre de la perfection. Et l'unité du vrai se ramènerait plus à l'unité de l'ousia. Et c'est ça qui est curieux. Je mettrai comme ça, pour que vous saisissiez mieux. Il y a quelque chose de plus relié au principe, parce que c'est l'intelligibilité. Alors c'est le vrai ontologique, le vrai fondamental. Et le bien, il y a l'essai. Le bien implique l'essai. Alors saint Thomas dit toujours cette chose très curieuse dans la Somme, il cesse de répéter ça, en disant « le bien implique l'essai ». Le bien ne peut pas être idéal. Il ne peut pas se marier avec une ici idéale. Non. Impossible. Ce n'est pas capable. Ce n'est pas valide. Parce que le bien implique l'exister. Le bien existe. Tandis que le vrai, c'est l'intelligibilité. Et donc le vrai se fonde sur l'ousia. Plus immédiatement. Vous voyez, c'est délicat à préciser, parce que ce sont des modalités qui sont très proches les unes des autres, mais on peut quand même comprend qu'il y a comme deux grandes lignes d'unité. L'unité qui repose sur l'aspect fondamental de l'être et l'unité ultime. Alors on arrive l'unité fondamentale à deux niveaux, le niveau substance, le niveau vrai, et l'unité ultime à deux niveaux, le niveau l'essai et le bien. Ça, vous voyez bien. Ça nous aide à comprendre hein, ces choses qui sont difficiles et qui sont peu développées. Les métaphysiciens sont paresseux, hein, ils ne développent pas. Depuis qu'il y a la colique de l'être, saviez-vous, mais il faut préciser un tout petit peu. Alors vous avez donc, je crois qu'on peut dire ça, deux types d'unité fondamentale. L'unité fondamentale au niveau du vivant, l'unité fondamentale au niveau du vrai. Ce ne sont pas les mêmes, hein, forcément. Parce que le vrai, par rapport à l'ousia, montre comment l'ousia est capable de perfectionner mon intelligence. Et puis, l'unité ultime. L'unité ultime, c'est l'unité liée à l'acte. Donc, l'unité liée à l'acte est C, l'unité à l'acte bien. Alors ça nous aide à saisir. L'unité ultime, c'est l'unité enveloppante. L'enveloppante disperse. C'est l'unité. L'unité enveloppante. Vous voyez, au point de vue de l'image, hein, vous auriez le point de vue du cercle et le plein. C'est assez curieux, du reste, schématiquement. Parce que le point, vous comprenez, c'est l'unité fondamentale. Et le cercle, c'est l'unité ultime. Alors vous avez deux chaînes de l'unité. Deux symbolismes de l'unité. L'unité, point, c'est fondamental. Tout se ramène à ça. On voit très bien. Et tout se ramène à l'ousia ou au vrai. Et puis l'unité circulaire, je dis ultime, c'est enveloppante. C'est l'unité. Comme vous faites un paquet, hein, vous ramenez la diversité. Là. Rémacher parlait du sac de pommes de terre, il était flamand. Hein. Alors il ramenait le sac de pommes de terre. Et il disait, c'est ça l'analogie, le sac de pommes de terre. On enveloppe toutes les pommes de terre, elles sont diverses, tous les étangs, alors on les enveloppe. C'est l'enveloppant. C'est l'unité ultime. L'unité ultime qui ramène la multiplicité, qui enveloppe la multiplicité. Et c'est vrai qu'il y a une unité ultime, il faut dépasser le schème. Hein. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit schème, ça nous aide. Hein. Le chaîne imaginatif qu'il faut avoir. C'est vrai qu'il y a deux types d'unités, c'est très curieux, le point et le cercle. Et là, et vous retrouvez ça au point de vue unité fondamentale, unité ultime. Alors vous pouvez se demander pourquoi ces deux unités ont deux modalités. Pourquoi l'unité fondamentale est une modalité unique, l'unité ultime aussi. Et de fait, il y a deux modalités. Modalité ousia vrai, modalité essai bien. Pourquoi il y a deux modalités? C'est parce que je crois que notre intelligence a toujours beaucoup de peine de saisir vraiment l'un. Elle a beaucoup de peine de saisir l'un. Alors elle le saisit toujours sur les deux lignes, la ligne substance, la ligne acte. C'est normal, hein, parce qu'il y a deux principes d'être. S'il y a deux principes d'être, au fond, je n'arriverai jamais à ramener l'unité à l'un. Vous voyez, c'est encore une manière qu'on peut comprendre comment le néoplatonisme demeure dans la confusion, n'acceptant pas l'analyse. Alors, le néoplatonisme demeure dans la confusion parce que projeter l'un au-dessus de tout, mais c'est oublier que je ne saisis pas l'un de cette manière-là. Je le décris, oui, ça c'est très vrai, mais je ne saisis pas dans toute sa pureté. Et je le vois bien, puisque de fait, quatre modalités de l'un. Et je crois que c'est vraiment quatre modalités de l'un. Alors, nous allons commencer un nouveau problème. Oui, c'est l'un est multiple. Ben, il y a multiple. Est-ce qu'il me dit des propriétés de l'être? Je dis l'un est propriété de l'être, l'un est la cause de l'être. À côté de la substance, il y a les accidents, il y a la qualité. La qualité n'est pas une, métaphysiquement parlant. La qualité est une du côté artistique, l'unité de l'homme. Mais la qualité n'est pas une, métaphysiquement parlant. Elle est diverse, elle est multiple. Il faut beaucoup de qualités pour faire un être parfait. Il ne faut pas une seule qualité. Il y a la spiritualité du boulot et la spiritualité du cerf, hein, du Liban. Il ne faut jamais l'oublier. Alors il y a des gens qui se perfectionnent. Pas une seule qualité. Il y a la spiritualité du boulot et la spiritualité du cerf, hein, du Liban. Il ne faut jamais l'oublier. Alors il y a des gens qui se perfectionnent en multipliant. Au point de vue de l'art, exactement, la spiritualité du cerf et la spiritualité du boulot. Hein. Et puis il y a des gens qui simplifient. Jusqu'au bout. Et alors il faut comprendre que nous avons toujours ces deux aspects. L'unité de simplicité, l'unité de perfection. Encore deux choses. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a les deux. Parce que de fait, il y a une antinomie entre les deux, je ne peux pas arriver, non. Alors, la qualité est multiple. Elle n'est pas une. Et la potentialité est source de la multiplicité. Or, les accidents ne sont pas principe. La puissance n'est pas principe. Donc, la multiplicité n'est pas propriété de l'être. Elle est plutôt ce qui montre les imperfections de l'être. Parce que l'être est imparfait, il est multiple. Parce que l'être est potentialité, il est multiple. Et donc, la multiplicité ne fait pas partie de la science. Et c'est au fond très important de saisir ça. Le multiple ne fait pas partie de la science. Le savant cherche l'unité. Toujours. Cherche l'unité. Une unité de simplicité, une unité de perfection. Et plus la science est parfaite, plus elle cherche l'unité de simplicité. Et moins la science est parfaite, plus elle se rabat sur l'imperfection. Les sciences dites humaines sont des sciences dans lesquelles il n'y a aucune simplicité. La psychologie dite scientifique n'a aucune simplicité. Elle se dit science par l'entassement des faits. Plus on en donne, plus il y en a, plus on dit que c'est scientifique. Ça montre que ce n'est pas scientifique, tout simplement. C'est dans la multiplicité. Et vous restez dans la diaspora, la multiplicité. C'est très curieux, ça. De voir que la multiplicité ne franchit pas le domaine de la science. La multiplicité, c'est ce qui, au contraire, montre la contingence. La multiplicité est contre la nécessité. La nécessité va du côté de la simplicité. Alors, les deux grandes sources, hein, de multiplicité, c'est d'une part les accidents, d'autre part la potentialité. Et la multiplicité ne fait pas partie. Alors, à partir de là, ce serait très important à comprendre, parce que toutes les oppositions viennent de la multiplicité. L'un, au-delà de la division. Le multiple présuppose la division. Vous voyez comment la dialectique n'est pas scientifique. Immédiatement, hein, vous l'avez là au plan métaphysique. Puisque la dialectique absorbe la division. Et la science rejette la division. Pour saisir la simplicité. Pour saisir l'un. Alors vous voyez donc qu'au fond, la dialectique, c'est une parent science. quelque chose qui n'est pas scientifique. C'est parce que, justement, vous n'arrivez pas à la science que vous restez dans la dialectique. Ça, tout de suite, on peut le voir. Et donc, c'est une parodie de la philosophie. Quelque chose qui n'est pas philosophique, qui n'est pas scientifique. Je crois que c'est très important, ça. Et comme on nous dit, la vie n'est pas dialectique. Pourquoi? Parce que la vie cherche l'unité. Par la finalité. Tout ce qui cherche l'unité est au-delà de la dialectique, parce que c'est au-delà de la division. Ça, vous voyez tout de suite, hein, ce serait intéressant à développer. Ça, c'est très intéressant à développer le point de vue de la multiplicité. C'est très intéressant parce que dans la multiplicité, vous allez trouver toutes les oppositions. Et vous devez, à propos de la multiplicité, saisir les oppositions, toutes les diverses oppositions qui peuvent exister. L'opposition au niveau de l'être, qui est le point de vue de la contradiction. L'un est au-delà de la contradiction. Ce qui se rattache au principe. L'être. Alors la première opposition, c'est la contradiction, au niveau de l'être. Alors comment naît la contradiction? La contradiction naît à partir de la première division, la division la plus fondamentale, la division dans l'ordre de l'être. Être, non-être. Il n'y aurait pas de contradiction si elle n'est pas non-être. Et le non-être ne peut naître qu'à partir de la négation au niveau de l'être. Et donc la division de l'être. Donc c'est la naissance de la contradiction. La naissance de la contradiction, c'est quand même très important d'assister à la naissance de la contradiction. Et de voir comment la contradiction est tellement implantée en nous, instinctivement, le gosse nie. Et le gosse, il dit tout le temps. Dès que quelqu'un dit quelque chose, il me dit attends, non. Non, immédiatement, non. Et on fait ça pour se défendre. C'est très très curieux. Une défense automatique de l'intelligence qui n'accepte pas de donner la main à l'être. Mieux donner la main à la déesse. Alors, elle n'accepte pas de donner la main. Quand j'affirme, je suis lié à l'être. Et quand je nie, je ne suis plus lié à l'être. Donc, je m'isole et je garde alors mon autonomie. Et j'ai mon autonomie pour moi-même. Vous voyez ? Je me mets dans mon autonomie. Je me mets donc radicalement en opposition vis-à-vis de l'être. Première opposition, donc l'opposition de contradiction. Seconde opposition, l'opposition au niveau de la forme. C'est au niveau des qualités, la privation. C'est encore une négation. Avoir la capacité de voir, ne pas avoir la capacité de voir. Donc ça c'est la négation de la forme. La négation de la forme, la division de la forme, la négation de la forme est au niveau donc de la privation. Troisième opposition, l'opposition des contraires. L'opposition des contraires, c'est une opposition qui implique deux points de vue positifs. Alors, ce n'est plus uniquement la forme, c'est la forme qui implique l'opération. Pas la pure forme, vous voyez, il y a le point de vue de l'efficience qui est présent dedans, dans la contrariété. C'est pour ça que la contrariété est source de tous les mouvements. Ce n'est pas la privation qui est source de mouvement. Tout mouvement implique la contrariété. Et puis enfin, dernière opposition, l'opposition relative. Donc, il faut dans le traité philosophique et métaphysique de la multiplicité regarder les oppositions et comprendre comment c'est toujours à partir des accidents et à partir de la potentialité que naît la multiplicité. Alors enfin, dernier mot, le point de vue du bien commun, parce que j'ai oublié, nota bene, le bien commun. Comment le bien commun n'est pas une modalité, n'a pas de modalité de l'un, sauf chez Platon. Pour Aristote, non. Pourquoi? Parce que le bien commun implique toujours l'opération vitale. Le bien commun, c'est le bien que l'homme fait. Ce n'est pas le bien qui m'est donné, c'est le bien que l'homme fabrique et réalise par la coopération. Nous sommes tous responsables du bien commun. Quand on dit, ah, cette communauté n'a pas assez d'unité, c'est pas de faute. Faites votre bien coupable.
Je ne dis pas que c'est le voisin, c'est nous. Parce qu'on est tous responsables du bien commun. Et le bien commun implique l'unité. Le bien commun implique que, de fait, il y ait une coopération. Alors, si on ne coopère pas, on diminue le bien commun. Chaque fois qu'on refuse la coopération, on diminue le bien commun. Donc, le bien commun n'est pas un bien qui s'impose dans sa transcendance, c'est un bien immanent, qui implique l'opération du temps. Pas de questions ? Alors, on peut arrêter. Et vous souhaitez, je ne dis pas de bonnes vacances, hein, mais souhaitez un temps de non-cours. La définition, un temps de non-cours où l'école Saint-Jean se met en vacances. L'école Saint-Jean, mais pas ceux qui sont partis de l'école. C'est là qu'il continue.